pourquoi a-t-on utilisé la ferme ?
Alors, la grange est utilisée comme lieu de discussion sur les projets. Le petit appartement comme appartement pour des jeunes gens. Et l'autre corps de bâtiment comme un lieu dans lequel va se tenir la société d'aménagement là, qui cherchait des bureaux. Et donc le directeur de cette société a fait venir l'ensemble de son personnel, a dit « Vous auriez envie de travailler là ?» Et les gens regardaient ça en disant « Mais oui, tout de suite. » Et donc ils viennent. Et puis ensuite, dans la cour, on fait deux maisons et puis deux petits immeubles aussi. Et donc vont habiter dans la ferme une quinzaine de familles, enfin d'appartements. Et puis la cour est gardée comme une cour. Et voilà, c'est le début, c'est une histoire qui commence là.
Bon, moi, je voudrais revenir quand même sur le 104, parce que là, excuse-moi Alexandre, encore une fois, je ne suis pas d'accord avec toi. Et là, je suis carrément scandalisée par ce que tu as dit, c'est-à-dire que le 104, entre la rue d'Aubervilliers et la cour du Maroc, tout d'un coup, c'est une sorte de cathédrale traversante et laïque, un passage où, tout d'un coup, les jeunes du quartier qui n'ont pas besoin de friches reconverties, des friches industrielles reconverties par des architectes de renom pour aller taguer tranquille tout ce qu'ils veulent autour de Calberson et tout. Ça, c'est leur territoire. C'est-à-dire qu'un lieu, c'est en rapport avec un territoire. Hein. Et donc, le territoire du 19e, je trouve que tout d'un coup, le 104, c'est un signe. C'est-à-dire c'est un signe, c'est une offrande, enfin ça, offrande d'architecture. J'ai trouvé ça dans les autres colloques Pierre Riboulet des autres années. Hein, il y a toujours ce terme qui revient. C'était pas venu encore aujourd'hui, mais je trouve que le 104, bon, qui est une très belle architecture, ou qu'est-ce qui a été fait au niveau architectural, c'est évidemment une récupération pour un usage des lieux, c'est-à-dire c'est un espace public, c'est un espace public avec des niches, des lieux individuels, des lieux de travail, c'est-à-dire c'est un espace habité, et cet espace habité peut être traversé. Hein. Bon, moi je trouve que cette expérience-là, on va voir qu'est-ce que ça donne, mais déjà c'est un signe, je veux dire, c'est quelque chose de très important, et j'ai des retours parce que je suis un peu dans le quartier, là, des copains de ma fille, tout ça. Bon, c'est un lieu où on se retrouve. Ce n'est pas des canailles, hein, ce n'est pas de la racaille, mais bon, enfin, ma fille, mais enfin, elle fréquente peut-être de la racaille. Bon, ça, c'est, je ne peux pas maîtriser tout. Mais en tous les cas, je veux dire qu'il y a là un usage, et que je ne suis pas sûre que... même en étant engagé, tout projet soit démocratique. Je ne suis pas sûre que quand on fait le projet, c'est un acte démocratique. C'est une question qu'on peut poser. C'est-à-dire qu'il me semble que ça repose sur une idée, que cette idée, elle doit rencontrer des élus ou des décideurs. Enfin, évidemment, ce n'est pas un acte seul d'un architecte ou d'un metteur en scène ou que sais-je. C'est, évidemment, ça rencontre une altérité, mais à un moment donné, l'idée, elle doit être portée et on peut la discuter. Mais je ne suis pas sûre qu'en se mettant, et donc ça a été vraiment le chose de la participation, bon, c'est pas sûr qu'en mettant des gens sympas tous autour d'une table, on arrive au projet. Bon, je n'en suis pas sûr.
Moi, je connais bien le lieu. Alors, parce que j'ai été conseiller de Paris, élu du 19e, j'ai habité longtemps 41 rue de Flandre, c'est à proximité. Et d'abord, c'est un détournement d'en faire un lieu de passage. C'était un lieu de passage avant, puisque c'était les pompes funèbres de la ville, c'était la fabrique de cercueils, etc. Et je connaissais beaucoup de gens très, très bons vivants, d'ailleurs, qui travaillaient là, des fonctionnaires de la ville. Et donc, c'est un détournement astucieux, puisque quand on est là, c'était un peu... Bien. Non, mais tout, c'est effectivement un lieu qui est difficile, puisqu'on est à proximité du faisceau des voies de la gare du Nord. C'est un endroit complexe, et en même temps dans lequel on a fait déjà des lieux un peu porteurs, un peu plus haut, on a fait quand même la Villette. Et justement, je ne suis pas certain, cette liberté que Alexandre Chemetov a revendiqué dans l'approche qu'il a eue à Nantes, et ensuite de dépouiller quelque chose et de dire l'endroit, il sera construit et habité, si j'ai bien compris, enfin ce que j'ai vu, hein, des rapidement décrit, ultérieurement, enfin au fur et à mesure de la construction du projet, à la Villette, justement, la Grande Halle, à un moment donné, ça a été ça, au départ. Puis on l'a refermé derrière, donc je ne sais pas aujourd'hui, je ne sais pas ce qui était le mieux, si c'était l'idée de que ceux qui venaient dans l'espace, et à l'époque, puisque tu as bien dit que c'était Patrick Bouchain qui travaillait là-dessus, non ? C'est ça, là ? Tout à l'heure, non ? Non ? Sur ce projet.
Patrick, l'idée, c'est qu'on a fait, on a refait le grand parapluie.
D'accord.
Et ce parapluie est ouvert à des initiatives.
Non, mais je dis ça pourquoi ? Parce qu'à l'époque, à une époque où on faisait une grande fête à Paris, nous, les Parisiens communistes, on faisait une grande fête sous la halle de la Villette, et c'est Bouchain qui organisait l'espace libre en dessous. Donc, je dis, tiens, il y a des petites connotations comme ça. Donc, c'est une démarche intéressante, mais qui n'est pas reproductible partout. Alors, simplement, ce que je dois dire, c'est que par rapport à je crois que cette dissociation du lieu qui a été voulu par la municipalité parisienne, par Bertrand Delanoë et Christophe Girard, qui a été porté, on a dit on désigne l'architecte et après on cherche qui habite le lieu, c'est vrai que c'est un gros inconvénient. En même temps, je suis désolé, Robert Cantarella, vous n'allez pas habiter ce lieu tout le temps, c'est pas souhaitable.
Surtout pas,
je crois que ça pose des problèmes quand dans certains endroits de Paris, ça fait 20 ans, qu'il y a des gens qui sont, je ne vais désigner personne. Donc, surtout, ce que je veux vous dire, c'est que moi, je suis maintenant élu juste un peu à côté, voisin, dans le 10e arrondissement, où il y a un petit espace modeste, quelques milliers de mètres carrés, qui s'appelle le Point Éphémère, que je suis un des initiateurs pour qu'il soit devenu, se soit transformé. C'est que, qui donc a été habité par des gens de façon provisoire, c'est un peu comme ça, mais surtout, c'est que c'est très difficile même que ces lieux qui se créent là vivent en contact réel avec leur environnement. C'est-à-dire que là, vous avez un avantage, et c'est un peu aussi le Point Éphémère, on peut passer comme ça, et tout le quartier populaire de la Grange-Aubel, la GAP, comme disent les jeunes de mon quartier, ils vont jamais là. C'est en face de chez eux, ils sont jamais, c'est ouvert, on peut y aller, il y a un bar en bas et tout, ils sont jamais là. Jamais. Alors, peut-être, là, je dis ça parce que j'espère que vous avez le talent, vous avez c'est très bon choix, vous avez choisi. Je dis ça sans... Parce que, bon, je suis quand même un peu ce que vous faites, mais si vous pouviez, en plus de la qualité de ce qui s'y fera, etc., arriver à un bout de rencontre avec les quartiers populaires qui sont autour... Ce serait vraiment, vous répariez le fait d'avoir fait le double choix.
On va peut-être laisser encore une ou deux interventions. Vous répondrez après, et puis, parce que le temps court.
Oui, Michel Huet, bon, je suis ravi de saluer à la fois l'homme de théâtre et l'homme de l'espace, architecture urbain et paysager. J'ai une question à leur poser, en les ayant écoutés à tous les deux. C'est le sujet... C'était métamorphose de l'engagement. Vous avez parlé d'utopie, utopie, vous avez eu la référence au lieu, non-lieu, etc. Est-ce qu'on n'est pas, justement, dans une métamorphose qui n'est pas d'ordre spatial ? Moi, en tant que juriste, ce que je vis dans les contrats, dans les relations, c'est la difficulté à maîtriser le travail du temps. Et est-ce qu'on n'est pas, est-ce que la métamorphose, de l'engagement, ce n'est pas un engagement de toutes les forces productives, créatrices, politiques, pour essayer de maîtriser le temps, et au-delà de la dimension spatiale, qui bien sûr doit être traitée, mais qui n'est plus la priorité. Est-ce que ce n'est pas ça, la métamorphose, le passage en priorité de la temporalité, et nous sommes, ne sommes-nous pas, n'êtes-vous pas, vous Robert Cantarella, dans une uchronie plutôt que dans une utopie ?
Encore une intervention là-bas, monsieur. à droite. Et puis après, vous répondez rapidement.
Oui, Jean-François Roulin, enseignant en architecture. Je voulais poser une question à Alexandre Chemetov, mais qui ne la prenez pas du tout pour quelque chose de désobligeant. En vous écoutant, on a l'impression qu'à Nantes, vous avez fait normalement et donc intelligemment votre travail. Et parce que vous dites engagé, mais moi j'entends un peu ça. Chem, il a fait son boulot correctement. Alors est-ce que, mais peut-être que vous allez me répondre, et c'est une vraie question, mais l'engagement aujourd'hui c'est ça, c'est très difficile d'aller au-delà d'une pratique intelligente de l'architecture. Est-ce que c'est ça ou est-ce qu'il y a peut-être moyen quand même de faire un peu plus et autrement?
Alexandre, et puis après
le temps,
et voilà.
Je disais simplement, là est mon engagement. Vous l'appréciez ensuite, vous considérez que c'est un engagement ou que ça n'est pas un engagement. Mais je n'essaie pas de tricher avec ça. Je ne pense pas que ce soit simplement de faire correctement son travail, si c'est ça la question. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de ça, il s'agit d'inventer d'une certaine façon les moyens de mettre en place les moyens d'exercer véritablement d'avoir un point de vue critique et un point de vue tout simplement d'agir sur une situation et pour rebondir sur ce que disait Michel Huette, c'est-à-dire de se dire qu'au fond on est bien en train de parler d'un temps donné, c'est-à-dire on pourrait dire de 5 ans. Voilà, de ce temps-là, d'un temps donné, en disant qu'est-ce qu'on fait avec ce temps-là et comment fait-on que le projet soit un espace de discussion et pas simplement un espace d'application de consignes. Et si on arrive à créer des lieux dans lesquels cette discussion devient possible autour d'un objectif construit, quoi. Je pense que ça déplace aussi, me semble-t-il, une certaine façon de faire de la politique, mais je ne parle pas de moi, là, je parle des élus. Je pense qu'aujourd'hui, on voit bien la discussion sur le renouveau de la vie politique fait complètement abstraction de tout ce dont on parle aujourd'hui. C'est-à-dire la question de la ville, la question de l'espace du projet, la question du rapport entre l'individu et le collectif, tout ce dont on a parlé aujourd'hui est totalement absent du débat politique. Le faire revenir dans l'espace du projet, est-ce que ce n'est pas une manière, au fond, d'interpeller la vie politique et de se dire, au fond, la fonction d'élu de territoire, ce qu'a dit Alain Lestit, là, à l'instant, en disant, c'est là, c'est comme ça qu'on fait de la politique. Oui, est-ce que ce n'est pas en disant quelles sont les conditions de transformation de cet endroit à Nantes, qui n'est pas juste une bonne façon de faire son travail, qui est une façon de le mettre, de dire, on le met dans l'espace public, quoi. C'est-à-dire la transformation de la ville est mise dans l'espace public. Elle n'est pas simplement le rapport d'un commanditaire intelligent et d'un architecte de talent. Elle est remise dans l'espace public, elle est remise dans l'espace du temps, et elle est donnée comme une question démocratique, pas simplement parce qu'on fait des consultations, parce qu'au bout d'un moment, il y a la preuve des choses. Et la preuve des choses, c'est la fréquentation d'un lieu. C'est le fait que la façon dont les endroits vivent, si vous voulez. Et en tout cas, moi, mon engagement, c'est celui-là. Il est très modeste, si vous voulez. Et puis, en même temps, c'est celui-là qui m'intéresse, mais j'ai le sentiment que, au travers des enjeux urbains, au travers des enjeux de transformation de ville, au travers de la transformation ici enfin, de chaque morceau de ce qu'on peut fabriquer, d'un centre commercial, de tout ce que vous voudrez, de la réparation de logements, de la construction de logements neufs, d'un parc, de la transformation, au travers de tout ça, des espaces du monde d'aujourd'hui, si on les prend comme des lieux qui deviennent des lieux de questionnement, quoi, sur comment on veut vivre ensemble et où veut-on vivre ensemble. Qu'est-ce qu'on propose comme espace pour être ensemble? Est-ce que voilà, cette question-là, moi, elle me passionne. Elle rejoint la question de qui était évoquée tout à l'heure de la mise en scène, du travail sur le temps. Et je pense que et puis elle et je voudrais dire à ce point-là que elle met aussi. Est-ce que pour faire tout ça, il faut créer un lieu de travail comme une entreprise, quoi. Et au fond, ça pose aussi la question de la liberté d'entreprendre, c'est-à-dire d'arriver à créer un lieu qui est un atelier avec des associés, avec des gens qui travaillent avec vous et qui partagent cette idée-là. Comment vous faites que 30, 40 personnes, 200, 300, quand on est sur un chantier, partagent l'idée du projet et se mettent ensemble à faire quelque chose comme ça. C'est ça qui est extrêmement intéressant.
Merci Alexandre Chemetov. Robert Cantarella, le mot de la fin.
Très court. Enfin, pour ce dialogue. À propos de l'Uchronie, sur l'Uchronie, parce que simplement de rappeler que donc, si c'était un avenir imprévu, qu'on ne peut pas... Jacques Rancière a une formule formidable sur ça, parce qu'il est vraiment très précis, c'est quand il dit que le sens de la politique, c'est le refus, dans tous les cas, de la nécessité. C'est la seule condition d'avoir des avenirs imprévus. Donc, il est à la fois politique, le sens de la politique, c'est le refus d'une nécessité pour avoir un avenir imprévu, donc pour travailler sur des temps autres, pas nouveaux, surtout pas, des temps autres. Et ça, je pourrais dire que ça fait très longtemps qu'on se pose cette question. Il y a beaucoup d'espaces publics, je reviens au champ du théâtre, on disait tout le temps, il y a je ne sais pas combien de lieux de représentation en France mis à disposition. Le problème, chaque fois, ce n'était pas les lieux, c'était le temps public. On disait, mais qui s'occupe du temps public? Pourquoi tant de compagnies sous? Pourquoi tant d'intermittents? La crise de l'intermittent, c'est bien une crise du temps, ce n'est pas une crise de l'espace. Donc, on ne va pas rentrer dans ces détails-là, mais on est vraiment pile à l'endroit de la gestion du temps. Et l'usage que fait actuellement le marché, c'est hein, Badiou, par-dessus le marché, s'il fallait qu'on travaille, ce serait par-dessus le marché, c'est-à-dire se débrouiller pour qu'on n'obéisse pas au temps que l'on veut. Et le temps de l'art en est un autre. Par exemple, c'est un des temps de la résistance possible, c'est le temps de l'art, parce que c'est un autre temps qui demande... Et par rapport à ce que vous disiez sur le quartier, pour le moment, ce qui est certain, c'est le fait de... On fait des pièges, mais des pièges joyeux, j'espère, des pièges à quartier. C'est-à-dire que quand on a dit la maison des enfants, par exemple, au lieu de la mettre à l'extérieur, on a dit celle-là, on la met en plein milieu, on se dit... Les gens, puisque c'est gratuit, c'est un service public pour les familles, on se dit, s'ils amènent l'enfant, ils vont être obligés d'aller au milieu du lieu. Donc on se dit, comme ça, ils vont passer devant les ateliers, et on fait comme ça des endroits. Le café, pareil, on lui a demandé de faire un camion à pizza, maintenant qui est là, mais qu'on a mis très près du centre, le centre géographique. Bon, pour le moment, c'est purement de la mise en scène pratique, technique, pragmatique, comment faire pour qu'on s'approche du lieu le plus possible, pour ne pas en avoir peur, en fait. C'est une question de peur. Voilà.
Merci beaucoup, Robert Cantarella. Bon, une conclusion.
Je suis censé faire, sans préavis, la synthèse de ces débats. En fait, c'est une position assez facile dans la mesure où je sais être l'orateur le plus attendu, puisque le dernier. Je vais très provisoirement mettre en parenthèse les remerciements immenses que j'ai envie d'adresser à nos intervenants et puis tenter, évidemment, avec, je l'espère, votre indulgence, cette synthèse, mais aussi avec, j'allais dire, un parachute, puisque vous avez tous cela en tête. Notre association, bien que modeste, bien que très militante, bien que simplement engagée, va publier les actes intégraux de ce colloque, ce qui, pour ma part, tout particulièrement cette année, me rassure dans l'exercice par lequel je dois conclure cette séance. Je voudrais quand même vous faire remarquer, avant de tenter ces synthèses, qui consistent essentiellement à redire les mêmes choses en beaucoup plus vite et dans l'ordre inverse, hein, ça, c'est à peu près ça l'exercice,